Love Me Tender en direct de la CAF Poésie, 24 heures non-stop de lecture de lettres d'amour sur les ondes de Radio FMR 89.1 ainsi que sur internet partout dans le monde sur www.cave-poésie.com ou alors sur le site de L'Onde Miroir, l'ondemiroir.fr. Nous allons enchaîner maintenant avec Patricia et Jean-Yves pour quelques florilèges de poèmes.
Valérie Rousseau. L'amour continuera sans moi. L'amour vivra plus vieille que mes oreilles. Mon bon Dieu, Dieu muet. Bon Dieu, Dieu, que pour toi j'avais. Ma peau, combien et mes syllabes de chagrin. Mes pieds, ma tête et mon cœur, ça fera rien. D'amour, d'amour, tu m'en diras tant mieux. Les yeux en pluie, les yeux en neige, les mains, ni une ni deux. Je pense aux personnes de merveilleuses avis. Je pense à leurs coups de main, je pense à leurs coups de pied, au soleil cou coupé et à baisement corps. Je pense à leurs coups de rein, je pense à leurs coups de dé. Je pense aux personnes qui me merveillent la vie d'hier à aujourd'hui jusqu'au lendemain, la merveille de leur voix, de leur rire et chagrin. Je pense à eux longtemps, je pense à eux très vite. Je pense à elles aussi, je pense partout à lui. Je pense aux personnes dans ma vie merveilleusement. Je pense merveilleusement aux personnes de ma vie car je n'oublie personne. Personne, et pas même moi. Je pense à tout le monde et m'y trouve comprise. Je pense à moi qui pense à vous et à merveille.
Mon loup, je veux te reparler maintenant de l'amour. Il monte dans mon cœur comme soleil sur le jour. Et soleil, il agite ses rayons comme des fouets pour activer nos âmes et les lier. Mon amour, c'est seulement ton bonheur. Et ton bonheur, c'est seulement ma volonté. Ton amour doit être passionné de douleur. Ma volonté se confond avec ton désir et ta beauté. Te voilà devant moi, toute nue, captive, adorée, toi la dernière venue. Tes seins ont le goût pâle des kakis et des figues de Barbarie. Hanches, fruits confits, je les aime, ma chérie. L'écume de la mer dont naquit la déesse évoque celle-là qui naît de ma caresse. Si tu marches, splendeur, tes yeux ont le luisant d'un sabre au doux regard prêt à se teindre de sang. Si tu te couches, douceur, tu deviens mon orgie et le mets savouré de notre liturgie. Si tu te courbes, ardeur, comme une flamme au vent, tes atteintes du feu, jamais rien n'est décevant. Je flambe dans ta flamme et suis de ton amour le phénix qui se meurt et renaît chaque jour. Chaque jour, mon amour. Va vers toi, ma chérie, comme un tramway, il grince et crie sur les rails où je vais. La nuit m'envoie ses violettes. Reçois-les, car je les jette. Le soleil est mort doucement, comme est mort l'ancien roman de nos fausses amours passées. Les violettes sont tressées. Si d'or te couronnait le jour, la nuit t'enguirlande à son tour. Apollinaire, poèmes à loup.
René Char. Guirlande terrestre pour un ange de plomb. Je n'ai plus de fièvre ce matin. Ma tête est à nouveau claire et vacante, posée comme un rocher sur un verger à ton image. Le vent très fort qui soufflait du nord hier a laissé, ça et là, des fils d'agitation qui pendent dans les arbres. Tu te réinstalles. Tu reprends le terrain perdu. Tu parviens avec rapidité à l'essor de la conquête. Je sens que ce pays te doit une âme meilleure. Tu es parti, mais tu demeures dans l'inflexion des circonstances, puisque lui et moi avons mal. Pour te rassurer dans ma pensée, j'ai rompu les ponts avec les visiteurs éventuels, avec la fatigue et la contradiction. Je me repose comme tu assures que je dois le faire. Je vais souvent à la montagne dormir. Je te garde dans mes bras et les étoiles sont tes sœurs. C'est alors en vérité que je m'évade des échardes enfoncées dans ma chair. Vieux accidents, vieux tournois. Vous êtes un loup de velours noir, village, sur les beaux yeux de mon amour. Je voudrais me couler dans une forêt où toutes les plantes se refermeraient et s'étreindraient derrière nous, forêt nombre de fois centenaire, mais elle reste encore à semer. C'est un chagrin d'avoir, dans sa courte vie, passé à côté du feu avec des mains de pêcheur d'éponge. Tes valises sont fermées, ta personne se hâte. ta voix disparaît. Tout ce mouvement hostile qui t'accapare à la forme et le sarcasme d'un train. L'un avec les mots de l'autre, sans départ. C'était fabuleusement énigmatique. Presque j'écrirais sur le dos du temps. Il est doux et maniable, lent et craquant. L'automne. Le rouge-gorge est arrivé. Les gouttes de son chant s'égrènent sur le carreau de la fenêtre. Dans l'herbe de la pelouse, les magiques assassinats d'animaux se perpètrent. Écoute.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls vers de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans le bon soir de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite, là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans. Lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se retourne, alerte, et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors, meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Arthur Rimbaud, poésie.
J'ai hâte de tenir dans mes mains la joie d'Étienne. Quelquefois, j'imagine qu'il serait bon de se noyer à la surface d'un étang où nulle barque ne s'aventurerait. Ensuite, ressusciter dans le courant d'un vrai torrent où tes couleurs bouillonneraient. Il faut que ça craque, ce qui enserre cette ville où tu te trouves retenu. J'ai levé les yeux sur la fenêtre de ta chambre. Aucune lumière, tu as tout emporté. Non, ce n'est pas ton fantôme qui bat dans ma poitrine. Mon éloge tournoie sur les boucles de ton front, comme un épervier à bec droit. Je ris merveilleusement avec toi, voilà la chance unique. Je ne peux être et ne veux vivre que dans l'espace et dans la liberté de mon amour. Tu es plaisir, avec chaque vague séparée de ses suivantes. Enfin, tout à la fois charge. C'est la mer qui se fonde, qui s'invente. Tu es plaisir, laine de spasme. Nos paroles sont lentes à nous parvenir, comme si elles contenaient une sève suffisante pour rester close tout un hiver. Pourtant, notre voix court de l'un à l'autre, mais chaque pierre, chaque végétal, le cabris étranger la tire à lui, la retient, l'interroge. Tout est prétexte à la ralentir. Il a fait deux journées d'incommensurable soleil, puis la brume a repris sa place. Les passants, les choses sont redevenus incertains. Même le grain de beauté au bord de tes lèvres adorables. S'il n'y avait sur terre uniquement que nous, mon amour, nous serions sans complices et sans alliés. Toute la bouche est la fin de quelque chose de meilleur que la lumière, de plus échancré et de plus agrippant sont sur toi. Tendrement, l'horloge tourne, mais ni toi ni moi ne savons tourner. Le seul souvenir qui tienne encore, je fais le geste médusant de saisir ta tête comme un rapace à flanc d'abîme. Il y a deux iris jaunes dans l'eau verte de la Sorgue. Si le courant les emportait, c'est qu'ils seraient décapités. L'air que je sens toujours prêt à manquer à la plupart des êtres devenant tien, à une profusion et des loisirs étincelants. Merci à toi d'être, sans jamais te casser, ô ma fleur de gravité.
Love Me Tender en direct de la CAF Poésie avec Patricia et Jean-Yves qui nous ont lu quelques textes de René Char, de Guillaume Apollinaire. Il y avait aussi du Arthur Rimbaud. Un petit voyage comme ça, si vous avez envie vous aussi de venir nous lire quelques textes d'amour, n'hésitez pas à venir à la CAF Poésie. 24 heures non-stop de lecture de lettres d'amour en direct et en public de la CAF Po. On va continuer cette fois avec un duo. Nous allons partir du côté de l'entre-deux-guerres avec l'Abbé Violet. C'est la compagnie L'Échappée Belle qui va nous proposer un voyage dans un univers assez étonnant, puisqu'entre 1924 et 1943, des femmes et des hommes, catholiques fervents, ont écrit à l'Abbé Violet, grand spécialiste de la morale conjugale, pour lui livrer leurs questions, leurs difficultés et finalement leur vie sexuelle. 70 ans nous séparent des dernières lettres qui lui ont été adressées. Ce sont celles, sinon de nos parents, du moins celles de nos grands-parents. De toute la France, de tous les milieux sociaux, de tous les âges. Dans une langue très maîtrisée, tout y est abordé ouvertement. Le vice solitaire, la fraude, la chasteté du couple, le devoir conjugal, le plaisir de la femme. Love Me Tender, dans l'entre-deux-guerres, avec la compagnie L'Échappée Belle.
Paris, le 17 octobre 1934. Monsieur l'abbé. Je viens vous demander de m'éclairer sur une chose qui me tourmente beaucoup, et vous serez infiniment reconnaissante de me répondre aussi rapidement que possible. L'été dernier, j'ai pensé me marier avec un ami d'enfance, divorcé, mais qui espérait obtenir l'annulation religieuse de son premier mariage. Nous avons profité de cet espoir pour nous considérer un peu trop comme fiancés. Et au moment de repartir pour les colonies, il m'a beaucoup pressée pour m'embrasser plus complètement et plus longuement sur la bouche. Depuis, je sais que l'annulation est impossible et par là même, notre mariage. Je suis très ignorante des choses de la vie malgré mes 23 ans. Et vais-je vous dire une chose stupide et ridicule ? Mais il me vient une terreur folle à l'idée qu'un tel baiser pourrait suffire à donner un enfant. D'abord, j'ai repoussé cette idée, mais elle me revient sans cesse et m'angoisse beaucoup. Si vous pouviez me dire que je n'ai rien à craindre et qu'il faut autre chose, vous me délivreriez d'un tel tourment. Avec mes remerciements anticipés.
Paris, le 5 décembre 1935. Monsieur l'abbé, pourriez-vous répondre par la voix de votre revue pour les parents et les éducateurs, à laquelle je suis abonnée, aux questions suivantes. Premièrement, dans un ménage où les conjoints ont 30 ans environ, le mari est particulièrement sujet à certaines tentations. La vue des femmes très fardées en particulier lui en donne quelquefois violemment. Dans les premiers temps de son mariage, il aurait bien voulu que sa femme prît l'habitude de se farder, estimant, peut-être à tort, que cela lui aurait permis de garder plus facilement son calme. Mais il s'est heurté chez sa femme non pas à un refus absolu, mais à une répugnance très vive. Comme il tenait beaucoup à son amour et qu'il se rendait compte qu'au fond, son attitude était la plus conforme à la morale chrétienne, il n'a pas insisté jusqu'à obtenir satisfaction sur ce point. Toutefois, il a été entendu entre les deux conjoints qu'on ferait tout ce qui serait possible pour éviter que le mari rencontre des femmes fardées en société. Jusqu'à présent, cela a été assez facile. Dans les deux familles, il en existe assez peu. Tout récemment, des parents du ménage éminemment respectables l'invitent pour lui faire la connaissance d'une jeune fille également membre de la famille arrivée depuis peu à Paris où elle a une situation. La jeune fille s'est trouvée être extrêmement fardée et par ailleurs très sympathique, digne d'intérêt. Mais sa vue a amené chez le mari un trouble violent qui a duré plusieurs jours. Le ménage doit-il éviter cette jeune fille, malgré la parenté assez proche et la sympathie qu'elle lui inspire ?
D'une façon plus générale, quelle est exactement la doctrine de l'Église au sujet de l'emploi des fards ? D'une part, pour les femmes mariées, et d'autre part, pour les jeunes filles et les femmes célibataires en général. Il semble que la question se présente de façon très différente dans les deux cas, au moins en pratique. En ce qui concerne les femmes non mariées, on ne voit pas bien ce qui pourrait légitimer l'emploi de fards violents. Les fards pouvant être considérés comme non violents, se réduisant à la poudre de riz blanche et au vernis incolore des ongles.
Avril 1938, Monsieur l'abbé, il y a 4 ou 5 ans, je désirais acheter un livre sur la pureté. J'allais dans un magasin de piété de notre ville où on me conseilla beaucoup votre livre sur la pureté et l'éducation du sentiment. L'ouvrant à la maison, je tombai sur les mots « rapport sexuel ». Je mis immédiatement le livre dans une armoire, pensant que si je le lisais complètement, ma pauvre imagination en ferait des siennes. Les années ont passé. Mais depuis 1934-35, je souffre d'un mal que je ne comprends pas. En mars 1936, atteinte de scarlatine et après une nuit terrible, je fus comme poussée à nouveau à lire votre livre qui se trouvait dans ma table de chevet. Ce fut la réponse de la Providence. Parmi les chapitres, je vis celui-ci, « Vice solitaire ». Et tout de suite, j'étais contente pensant que j'allais savoir quelque chose ayant quelque rapport avec le mal dont je souffre.
Je souffre du vice solitaire. Mais je vous dis tout de suite que c'est involontaire. Cela se passe la nuit quand je dors. Je ne savais pas que le vice solitaire existait. C'est votre livre qui me l'a appris. Dans la nuit, je sens une jouissance et à mon réveil, oh, je sens bien qu'il s'est passé quelque chose. Je ressens les malaises que vous décrivez dans votre livre. Crise de désespoir terrible.
Terrible.
Je vous dirais même que je suis lasse de vivre. La chose existe-t-elle chez d'autres ou suis-je un monstre ou une possédée?
N'y a-t-il rien à faire du côté physique?
Dois-je voir un médecin?
Il est peut-être nécessaire qu'il soit catholique.
Comment appelez-vous exactement le mal dont je souffre?
Il est de mon devoir d'agir s'il en est encore temps. Et si les détails sont insuffisants, je répondrai à toutes vos questions. Dans votre immense bonté, vous voudrez bien me répondre le plus vite possible.
Une réponse de l'abbé Violet. Les pratiques de la masturbation. Les pratiques de la masturbation sont beaucoup plus répandues qu'on ne le pense en général. Le mal sévit avec une grande violence parmi les jeunes.
Quand le mal est avancé, le teint de l'enfant est pâle et souvent terreux, ses yeux cernés et son regard fuyant.
Sa puissance de volonté et de travail est diminuée. Il ne parvient pas à fixer son attention. Son sommeil est tourmenté et mêlé de cauchemars.
Il perd sa joie. Il fuit ses camarades et cherche la solitude. Son sourire est contraint et comme gêné.
Il ne connaît plus l'épanouissement joyeux de son âge et son âme tourmentée perd sa franchise en même temps que sa confiance. Il paraît en quelque sorte vieillir avant le temps.
Le vice solitaire épuise le système nerveux, provoque une véritable répulsion vis-à-vis du sexe opposé. Enfin, il détruit lentement les puissances spirituelles de l'âme. Il faut donc prévenir l'enfant.
Détecter l'existence du mal en provoquant des aveux.
Toutefois, il ne faudra jamais parler de manière à provoquer une sorte d'obsession.
Une sorte d'obsession.
Je cherche par-dessus les toits un petit clou d'or qui s'attire pour lui parler.
Décembre 1931.
Monsieur l'abbé, ne sachant distinguer le bien du mal et me trouvant dans une grande incertitude, je me permets de vous soumettre notre cas aussi précis que possible, afin que vous puissiez me donner une réponse bien claire. Je ne veux plus demander conseil au confesseur. Ce que l'un approuve ou tolère, l'autre le condamne. Mariés depuis 3 ans et demi, nous avons une fillette de 2 ans et demi. Pour réaliser un vrai chez-soi, nous avons construit une gentille maison située au grand air. Mais comme les fonds ne nous suffisaient pas, nous avons dû emprunter de l'argent. Afin d'amortir au plus vite les dettes, j'ai repris mon occupation de jeune fille en confiant le bébé à ma mère qui habite près de nous. Vous comprendrez que sous ces conditions, une deuxième maternité, quoique très désirée, nous gênerait beaucoup. D'autant plus que nous ne pourrons pas charger ma mère d'un second enfant. D'un commun accord, nous nous sommes décidés à l'abstinence. Et nous l'observons depuis 2 ans. Il est vrai qu'au commencement, il y avait l'une ou l'autre fois des fraudes à marquer, mais depuis assez longtemps, cela va très bien. Toutefois, mon mari exige des intimités. Au moins une fois par quinzaine, il veut coucher dans mon lit pour un quart d'heure ou une demi-heure pour échanger des marques de tendresse. Il touche mon corps. surtout les seins et l'autre partie. À cet effet, je dois écarter les jambes comme pour accomplir l'acte conjugal. Il se couche sur moi en faisant les mouvements de l'acte en dehors de la partie sexuelle. Ou il se couche tout près de moi en faisant des mouvements sur ma cuisse. Il m'embrasse sur la bouche. Il veut me voir. Il me demande de tenir son membre, de le regarder. Tout cela sans perte de semence de sa part et sans excitation de ma part. Sauf quand ces démonstrations amoureuses durent trop longtemps. Le jour, si nous sommes assis par exemple sur un canapé, il aime à mettre sa main entre mes jambes ou à me toucher. Malgré que j'ai lu et relu vos articles très intéressants, je n'y vois pas clair. Je ne sais pas s'il s'agit... Je ne sais pas s'il s'agit soit d'un abus de la part de mon mari, soit d'une trop grande pruderie de ma part. Je vous serais bien obligée de me dire si je dois me prêter, même avec plaisir, à ces actes, ou si je dois faire comprendre à mon mari qu'il va trop loin, mais je crois qu'il se fâcherait alors. Veuillez me fixer pour sauvegarder la paix, la pureté et la bonne entente conjugale de mon jeune foyer.
Ce 29 janvier 1935. Monsieur l'abbé, vous m'excuserez tout d'abord de la liberté que je prends en vous écrivant. Abonné depuis quelques années déjà à la revue pour les jeunes gens de l'association du mariage chrétien, j'ai toujours lu avec infiniment de tendresse vos conseils et vos directives pour la préparation du mariage chrétien. Votre dévouement à la cause de l'amour chrétien et surtout votre très grande expérience des jeunes m'ont incité à vous écrire. Je suis un homme de 23 ans habitant une petite ville de province. Vers 15 ans, à l'âge où l'adolescent sent son cœur s'orienter vers l'amour féminin, brusquement éclata une amitié et une affection si vive pour un de mes camarades de collège qu'elle ne tarda pas à devenir véritablement de l'amour. De ce condisciple, je ne désirais qu'une chose, les marques extérieures et sensibles de l'amour. Sans connaître encore rien de l'union sexuelle, il m'est arrivé bien des fois de me dire moi-même quel dommage que les hommes ne puissent se marier entre eux, ne voyant en cela rien de mal. Cet amour violent resta toujours mon secret, mon ami n'ayant jamais connu mes tourments intérieurs et mon amour pour lui. Maintenant, toute passion est morte et ce jeune homme est redevenu le camarade de mes 12 ans.
Je n'exagère rien en vous disant, monsieur l'abbé, que cette passion m'a fait souffrir cruellement. Maintenant que l'orage a passé, je suis très inquiet. Je n'éprouve d'affinité, de penchant pour aucune jeune fille. Cependant, j'ai une sœur qui a des amis, l'une d'elles est particulièrement intime. Nous nous connaissons depuis 10 ans et je l'affectionne beaucoup. Mais jamais, je n'ai ressenti le moindre amour, le moindre désir d'elle. Ce qui me chagrine, c'est que je sens bien que sans le secours divin, mon amour des jeunes gens est tout prêt à reprendre place et j'ai si peur de devenir un inverti. À cet état malheureux s'en joint un autre aussi pitoyable, mon ignorance absolue du mariage. Si jamais je devais me marier la semaine prochaine, je serais forcée de demander comment on se sert d'une femme. Les prêtres à qui je me suis adressée ne sont jamais entrés que dans des généralités qui n'ont fait qu'accroître mes ténèbres.
Je résume ma situation, penchant dévoyé, indifférence féminine et ignorance complète de l'union des sexes. Dois-je vous dire maintenant, monsieur l'abbé, que cette situation m'accable et me décourage? J'adore les enfants. Tout mon bonheur serait de fonder un foyer heureux qui donnerait au monde et à Dieu beaucoup d'enfants. Mais jamais je ne voudrais épouser aucune jeune fille sans vouloir la rendre heureuse. Et comment le pourrais-je dans ma situation présente? Je vous demande, monsieur l'abbé, ce que vous pensez de cet état anormal, me semble-t-il, et comment opérer une guérison.
Je ne suis qu'un cœur qui ne demande qu'à s'ouvrir. Étant organiste dans l'une des églises de ma ville natale, je trouve dans la musique, et surtout dans la musique au service du bon Dieu, d'immenses compensations. Cet amour de l'art qui m'anime très fort pourra-t-il un jour découvrir cet autre chef-d'œuvre de l'humanité, la femme ? C'est mon vœu le plus ardent. En m'excusant de cette longue lettre, je vous remercie d'avance, monsieur l'abbé, des paroles d'orientation et de salut que je sollicite humblement de votre ministère.
Le 11 août 1936. Monsieur l'abbé, il vient de m'être demandé conseil pour un cas que je ne sais résoudre. C'est un célibataire très chaste et qui a environ 60 ans. Tous les 15 jours ou 3 semaines, il a des pollutions nocturnes involontaires qui le réveillent. Alors il se demande si, au lieu de s'exposer à attacher son linge et ses draps, il ne lui serait pas possible de se soulager par une rapide, oh, très rapide, masturbation, ce qui serait presque arrangé parmi les soins d'hygiène. Est-ce permis ?
La réponse du docteur Duval Arnoux. Pour aider cet homme de bonne volonté, on pourrait lui conseiller, dans les périodes congestives, outre un régime peu carné, sans épices et sans alcool naturellement, de prendre dans la journée 3 comprimés de lubrical, et de mettre le soir dans l'anus un suppositoire de métazole. Janvier 1935. Monsieur l'abbé, nous avons une petite fille de 22 mois qui a pris l'habitude en s'endormant de se tortiller les jambes en se remuant l'intérieur du vagin. Elle a commencé à prendre cette habitude vers 1 an quand elle était assise dans son fauteuil. Dès que je m'en suis aperçue, j'ai renoncé à la mettre dans son fauteuil et l'habitude a disparu pour un temps. Puis, seule, dans son parc, le matin, elle s'est mise à se coucher et à se livrer à nouveau à ce genre d'exercice. M'en étant aperçue à nouveau, je me suis arrangée pour que ma fille ait toujours une occupation dans son parc. Et au besoin, je l'en retirais de temps en temps. J'espérais bien en venir définitivement à bout, mais en septembre, la naissance de mon fils m'obligea à me séparer bien à regret de cet enfant. Je prévins la personne à qui je la confiais. Elle ne se rendit compte de rien. Mais toutes les après-midi, ma fille venait me voir. Elle, si charmante, était un véritable grain. Par la suite, je sus que tous les matins, elle passait 2 à 3 heures seule dans son parc, s'y endormait parfois, mais se livrait toujours copieusement à son exercice. Je la ramenais chez moi, désolée, à l'heure même où je m'en aperçus. Je la repris sérieusement en main et je puis certifier que depuis ce temps, elle ne le fait plus jamais de la journée. Toutefois, à certaines périodes, dès qu'elle est dans son lit, elle s'y installe à sa manière, chemise entre les jambes. Et certaines fois, cela dure longtemps. Elle ne s'endort pas et on la retrouve toute rouge et grincheuse tard dans la nuit. Qui pouvons-nous nous faire ? Nous faisons tout ce que nous pouvons, en fait, de remontrance, mais on ne peut guère gronder sérieusement un bébé de 22 mois. Quand elle a commencé, c'est plus fort qu'elle, Et l'instant d'après mon départ, elle recommence. Surtout que la nuit, je ne puis lui donner de dérivatif. Je voudrais des conseils d'hygiène afin qu'elle s'endorme vite, ce qui diminuerait le danger. N'existe-t-il pas un appareil qui immobiliserait les cuisses et les reins et que je mettrais quand je la coucherais ? Car il me semble de la plus haute importance, du point de vue moral, de ne pas lui laisser prendre ce mauvais pli. Cela deviendrait une passion irrésistible. Et plus tard, quand elle aurait l'âge de raison, ce serait très dur à extirper.
Je suis une ancienne de l'Institut Saint-Paul, mon père est docteur, ma mère extrêmement pieuse. Et malgré ce choix dans lequel j'ai passé mes années d'enfance, j'ai eu un cousin et une cousine un peu plus grand que moi qui m'ont initiée à l'âge de 8 ans à des pratiques d'impureté. Tant et si bien que je n'ai jamais pu m'en défaire, même étant grande jeune fille et malgré des luttes réelles. Heureusement, je me suis mariée jeune, j'ai eu le grand bonheur d'avoir deux très beaux enfants qui ont maintenant 4 et 6 ans. Mais j'ai abîmé complètement ma santé. Je suis déprimée, amaigrie, et aucun traitement n'a réussi à me rendre mes forces. C'est un chagrin et un remords qui me poursuit constamment. J'ai gâché ma vie. Mais je veux à tout prix préserver mes enfants, je les veille d'ailleurs depuis leur naissance. Voici les moyens que j'emploie. Premièrement, une grande propreté. Deuxièmement, toujours l'enfant bien culotté, surtout la nuit. Et pour cela, je leur mets toujours des combinaisons qui ferment entre les jambes. Leur parler, troisièmement, leur parler quand l'occasion se présente des maladies graves qui leur arriveraient s'ils touchaient à cette partie de leur personne, en dehors bien sûr des besoins et des nettoyages. Et quatrièmement, leur apprendre très jeune à faire des efforts sur eux-mêmes et à aimer ce qui est beau. Voilà mon triste cas, monsieur l'abbé, s'il peut servir de documentation et aider quelques parents, j'en serais bien heureuse.
Le docteur Demade recommande la main gantée pour dormir. La main gantée est chaste et l'expérience prouve que ce moyen suffit avec bonne disposition de volonté et de persévérance. Il faut que le gant soit complètement fermé par un bouton pression.
Ah, je me suis toujours demandé si ce gant pouvait être un gant de peau.
Offrir le reflet tendre de tes grands yeux bleus.
Le 2 avril 1939, monsieur l'abbé, je ne suis qu'une paysanne ignorée de tous au fond de sa ferme isolée dont je ne peux sortir même le dimanche. Dans ces conditions d'existence, je porte le 11e et mon aîné a 13 ans. Sans personnel, qui donc aujourd'hui voudrait du travail à la campagne ? Je ne trouverai même pas une fille du bourg qui accepterait de marcher sur la boue de nos chemins pour travailler chez nous. Je dois fournir tout le travail de la ferme et de la maison, la traite des vaches, le soir les bestiaux. D'abord, j'ai considéré mon mari comme un inconscient et ne se rend pas compte du mal qu'il me fait. Mais quand on est jeune fille, on voit dans son fiancé l'être idéal rempli de toutes les qualités qu'on lui souhaite. L'erreur est dure. Par le mariage, on vivra avec un homme qui a des défauts, des travers, des erreurs de jugement et qui se croit à toute l'autorité incontestée. J'avais eu la tentation de cesser tout rapport avec mon mari. J'avais tellement souffert en attendant le 9e, ayant eu durant ma grossesse des hémorragies restées et pour cause sans aucun soin. Et j'étais allée à Nantes voir un jésuite qui m'avait dit « Mais madame, votre devoir, votre unique devoir, c'est de cesser d'en avoir d'autres. » Comment voulez-vous, seule, éduquer, élever tous ces enfants ? Voulez-vous les mettre au monde pour en faire des damnés ? Une à une, il a réfuté toutes les objections que je lui ai présentées, me disant que je n'étais pas responsable des fautes que commettrait mon mari, puisque c'était ses désirs à lui qui n'étaient pas raisonnables. J'ai persisté plusieurs mois dans cette ligne de conduite, aidée en cela par ce jésuite, mais il quitta bientôt Nantes et je me tournai alors vers un missionnaire diocésain qui me tint un tout autre discours. Il se montra même scandalisé de la conduite qui m'avait été donnée. Il me déclara que j'étais la cause des fautes de mon mari, que même si je devais mourir d'une maternité, je devais accepter les lois du mariage puisque mon mari refusait l'abstinence. Qu'il ne s'agissait pas de savoir si mes enfants seraient des damnés ou des élus, mais que je devais faire mon salut en évitant le péché et en le faisant éviter aux autres. Et c'est ainsi que j'ai eu le 10e et maintenant le 11e. Nos ressources diminuent, mes forces s'affaiblissent, je ne puis plus du tout quitter la maison et ne reçois aucun secours spirituel. Suis-je dans le vrai ? Ou bien était-ce de mon devoir de limiter le nombre de mes enfants ? Je recevrai avec reconnaissance tous vos conseils. Vous voudrez bien noter personnel sur l'enveloppe.
Le 20 novembre 1934. Monsieur l'abbé, je suis abonné à votre revue pour les parents et les éducateurs que je lis avec intérêt. J'ai 34 ans. Ma femme, 31, nous avons 8 enfants. Pour plusieurs raisons, en particulier la santé de la maman et les ressources du budget, il ne faut absolument plus que nous ayons d'autres enfants. C'est vous dire quelle difficulté il y a pour nous à vivre selon les règles du mariage chrétien. Dans ce cas, qui n'est pas exceptionnel, comment conciliez-vous la loi du mariage avec elle-même ? Car il est bien entendu que les fins du mariage sont doubles. Procréation et remède à la concupiscence issue de l'amour mutuel. Le fait d'avoir accepté 8 enfants doit-il nous priver pour de longues années des plaisirs de la chair ? Dans ce cas, il faut être absolument un saint pour observer rigoureusement la loi, car la tentation est toujours là. Dans ce cas, les fins du mariage n'existent plus. Le remède à la concupiscence disparaît et se trouve remplacé par une tentation continue et inévitable. Je dis inévitable car je n'admets pas, dans ce cas, que l'on puisse faire chambre à part. Lorsque l'on a porté tous les jours la charge des travaux et des soucis quotidiens, c'est une nécessité que de reposer l'un près de l'autre. Franchement, admettez-vous qu'un ménage de notre âge, où règne l'amour mutuel, doive et puisse vivre sans rapport sexuel plus ou moins régulier ? Si c'est impossible à observer, n'y a-t-il pas là abus ou injustice à l'exiger ? Je vous redis qu'une nouvelle maternité serait dangereuse pour ma femme. N'y a-t-il réellement d'autre solution que de vivre en perpétuelle tentation ? Prendre le chemin du confessionnal, sachant que malgré tout on retombera ? Ou vivre avec un poids continu sur la conscience ?
Réponse d'un prêtre. Si vous avez des raisons suffisantes pour vouloir arrêter vos maternités, il vous faut vivre fraternellement avec votre mari et éviter, sous peine de faute grave, toutes les démonstrations physiques de tendresse dont vous me parlez. Celles-ci sont considérées comme faites pour préparer et accompagner l'acte de mariage. Du moment où vous ne voulez plus l'accomplir pleinement, vous devez vous dispenser de tout ce qui l'accompagne, quitte à ne plus partager la même couche et même, si nécessaire, la même chambre. Réponse de notre prêtre. Vous pouvez faire tout ce qui accompagne l'acte de mariage, imiter tout ce qui précède ou suit l'acte, sans faire de faute grave. La seule chose qui vous est formellement interdite, c'est la perte du germe de vie par un épanchement inutile du liquide fructifiant.
Mais alors, où est la bonne réponse entre ces deux si différentes ? Il y a des moments de fatigue physique qui portent certains tempéraments à chercher un apaisement dans des caresses plus intimes.
Réponse de l'abbé Violet. Non, les caresses entre époux, observant l'abstinence, ne sont pas défendues, du moment que ces époux de bonne volonté ne sont pas parvenus à la perfection spirituelle qui leur permettrait de vivre dans la parfaite abstinence.
Est-il permis à des époux de provoquer des pollutions indépendamment de l'union conjugale, quand la femme est en état de grossesse, c'est-à-dire quand le but de l'union conjugale est atteint, et cela en vue de réaliser l'une des fins secondaires, l'apaisement de la concupiscence ?
Toujours l'abbé Violet, Les tendresses entre époux sont légitimes, indépendamment de l'union conjugale, et les pollutions ne sont une faute que si elles sont directement voulues et provoquées de manière à empêcher la conception. Dans le cas présent, il n'y a pas faute contre la conception dès lors que la mère est déjà enceinte.
Faut-il se considérer en état de péché mortel parce que l'on cède de la méthode Ogino?
Ah, le docteur Bio dit que la propagande indiscrète en faveur d'Ogino est une honte. L'abbé Violet, la méthode Ogino est un danger dans la mesure où elle tend à développer l'égoïsme charnel aux dépens du devoir de générosité. C'est pourquoi il ne faut en abuser qu'avec modération et pour éviter des maux graves, comme serait par exemple la séparation morale des époux.
Sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin. Je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.